Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Rien ne va plus en physique, Lis Molin examine la crise qu'il perçoit dans la physique théorique contemporaine. Physicien engagé dans la recherche sur la gravitation quantique à boucle. Il ne propose ni une introduction neutre à la théorie des cordes, ni un simple plaidoyer pour une théorie concurrente. Son essai de vulgarisation critique interroge les critères par lesquels une hypothèse mathématiquement élégante devient une théorie physique crédible. Smolin retrace aussi la longue histoire des unifications de la mécanique classique à la relativité générale, afin de situer les ambitions actuelles de conciliation entre physique quantique et gravitation. Sa cible principale est la domination institutionnelle de la théorie des cordes, malgré l'absence, selon lui, de prédictions empiriques distinctives et confirmées. Le livre élargit donc le débat scientifique vers les pratiques de recrutement, de financement et de publication. Il défend une recherche pluraliste, où des approches rivales peuvent être développées et confrontées aux observations sans être marginalisées trop tôt. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la testabilité comme critère décisif pour la physique fondamentale, le point central de Smolin est méthodologique. Une théorie physique ne doit pas être jugée seulement sur sa cohérence interne, sa richesse mathématique ou son ambition unificatrice. Elle doit aussi risquer une confrontation avec le monde. La théorie des cordes transforme les particules élémentaires en mode de vibration de cordes et incorpore naturellement un état associé au graviton, ce qui explique une part de son attrait comme candidate à une gravité quantique. Smolin reconnaît cette puissance conceptuelle, mais soutient que les succès formels ne remplacent pas les prédictions contrôlables. La difficulté ne réside pas simplement dans le fait que les expériences nécessaires soient coûteuses ou lointaines. Elle tient au fait que le cadre admet un très grand nombre de solutions possibles, dont beaucoup peuvent être adaptées à des résultats déjà connus. Dans ces conditions, une observation qui ne confirme pas une attente précise ne permet pas aisément d'écarter le programme. Le livre rappelle ainsi une distinction essentielle entre compatibilité après coup et prédiction préalable. Cette exigence ne condamne pas la spéculation théorique, indispensable dans un domaine où les échelles d'énergie pertinentes sont inaccessibles. Elle impose plutôt de reconnaître son statut provisoire et de ne pas présenter une possibilité mathématique comme une description établie de la nature. Deuxièmement, le paysage des solutions et la perte de pouvoir prédictif, Smolin accorde une importance particulière au paysage des solutions de la théorie des cordes. Le problème est que le cadre ne conduit pas de façon évidente à un univers unique, ayant les particules, les forces et les constantes observées. Il existe au contraire un nombre immense de configurations mathématiquement envisageables, liées notamment au choix de dimensions compactifiées et de structures physiques à basse énergie. Pour l'auteur, cette abondance affaiblit l'aspiration initiale à une théorie unifiée capable d'expliquer pourquoi les constantes de la nature ont précisément leur valeur mesurée. Une théorie qui permet de reproduire de nombreux mondes possibles doit encore fournir un principe permettant de sélectionner le nôtre. Sans ce mécanisme, le risque est de déplacer la question plutôt que de la résoudre. Smolin discute dans ce contexte le recours au raisonnement anthropique et aux univers multiples, qu'il considère insuffisant comme substitut à une explication physique soumise à vérification. Son objection ne suppose pas que ces idées soient logiquement impossibles. Elle vise leur faible capacité à produire des conséquences observables discriminantes. Cette analyse éclaire une tension durable de la cosmologie théorique, plus un cadre est général et flexible, plus il devient difficile de le soumettre à des tests qui excluent réellement certaines de ses versions. Troisièmement, les problèmes non résolus au-delà de la promesse unificatrice. Le livre ne réduit pas les difficultés de la physique fondamentale au seul conflit entre partisans et adversaires des cordes. Smolin organise son diagnostic autour de grandes questions encore ouvertes. Il faut comprendre comment concilier la relativité générale, où espace et temps sont dynamiques, avec la théorie quantique. Il faut également clarifier les fondements de la mécanique quantique, expliquer les paramètres libres du modèle standard et rendre compte de phénomènes cosmologiques tels que matière noire et énergie noire. Cette liste sert de mesure concrète pour évaluer les programmes de recherche. Une théorie ambitieuse ne devrait pas seulement englober des équations existantes, mais éclairer les énigmes qui résistent au cadre disponible. Smolin estime que la théorie des cordes ne fournit pas alors de réponse empirique décisive à ces défis. Il insiste notamment sur la question de la dépendance. Au fond, la relativité générale décrit une géométrie de espace-temps influencée par la matière et non un décor fixe. Pour lui, une théorie quantique de la gravitation doit prendre cette leçon au sérieux. Cette discussion reste exigeante, mais elle montre que le désaccord porte sur la forme même que devrait prendre une théorie fondamentale, et non seulement sur la priorité accordée à telle technique mathématique. Quatrièmement, la gravitation quantique à boucle parmi les voies alternatives. Smolin plaide pour le développement de plusieurs programmes de gravité quantique plutôt que pour le remplacement immédiat de la théorie des cordes par une orthodoxie différente. La gravitation quantique à boucle occupe une place visible dans cette perspective car il a contribué à son élaboration. Cette approche cherche à quantifier la géométrie de l'espace-temps tout en préservant l'idée issue de la relativité générale selon laquelle la géométrie est dynamique. Elle explore notamment une structure discrète possible de certaines grandeurs géométriques à des échelles extrêmement petites. Le livre mentionne également d'autres pistes, telles que les triangulations dynamiques, les géométries non commutatives ou certaines modifications de la relativité et de la gravitation. Leur présence a une fonction argumentative précise. Elle démontre que le champ ne se limite pas à une opposition simpliste entre une théorie dominante et le vide. Aucune de ces voies ne dispose à elle seule de la confirmation expérimentale qui trancherait le débat. Smolin ne les présente donc pas comme des solutions achevées. Il réclame plutôt des conditions intellectuelles et matérielles dans lesquelles elles peuvent mûrir, formuler des calculs, identifier des signatures observables et éventuellement échouer. La diversité devient ici une stratégie de réduction du risque scientifique. En dernier lieu, conformisme académique, carrière et pluralisme de la recherche, la dimension la plus distinctive de cet essai concerne la sociologie de la recherche. Smolin soutient que la concentration des financements, des postes et du prestige autour de la théorie des cordes a favorisé un effet de verrouillage. Les jeunes chercheurs auraient intérêt à travailler dans le domaine le plus valorisé, non nécessairement parce que ses fondements sont les mieux établis, mais parce que les opportunités professionnelles y sont plus nombreuses. Cette dynamique peut réduire la place accordée aux idées risquées, aux approches moins à la mode et aux critiques méthodologiques. Smolin ne prétend pas que les scientifiques abandonnent la rationalité ou que toute autorité soit illégitime. Son argument est plus précis, les institutions humaines peuvent amplifier le consensus avant que les données ne le justifient. Il distingue aussi le travail patient des artisans, indispensable à la science, de la capacité plus rare à reformuler les problèmes. Sa proposition consiste à encourager une répartition plus pluraliste des ressources et une évaluation qui valorise les questions fécondes autant que la conformité à un programme dominant. Le livre devient ainsi une réflexion sur les conditions sociales de la créativité scientifique. Il invite à protéger la critique informée sans confondre ouverture intellectuelle et acceptation de toute affirmation non testée. En conclusion, Rien ne va plus en physique convient aux lecteurs déjà curieux de cosmologie, de théorie quantique ou de philosophie des sciences, ainsi qu'aux étudiants qui souhaitent comprendre pourquoi les débats sur la gravité quantique dépassent les seules difficultés techniques. Une formation avancée en physique aide pour certains passages. Mais le bénéfice principal du livre est de rendre visibles les critères de jugement souvent dissimulés derrière le langage mathématique prédiction-réfutabilité. Explication et rapport entre théorie et expérience. Il intéressera également les chercheurs et lecteurs préoccupés par les effets de la compétition académique sur le choix des problèmes étudiés. Sa valeur ne dépend pas de l'adhésion complète aux conclusions de Smolin. Son point de vue est engagé et sa proximité avec la gravitation quantique à boucle doit être gardée à esprit. Toutefois, cette position assumée produit une critique structurée, plus substantielle qu'une simple présentation des étrangetés de la théorie des cordes. Par comparaison avec les ouvrages de vulgarisation qui célèbrent principalement l'élégance unificatrice des cordes, celui-ci examine leurs limites empiriques, leur multiplicité de solutions et leur statut institutionnel. Il se distingue aussi des polémiques anti-scientifiques, car Smolin défend non pas le rejet de la théorie, mais le retour à une concurrence rigoureuse entre hypothèses. Le lecteur y gagne un cadre pour distinguer une idée prometteuse, une théorie établie et un programme de recherche encore spéculatif. Si vous souhaitez soutenir Lee Smolin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.